Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Très heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Bana Okapi. Ce programme dédié aux plus jeunes est réalisé en partenariat avec l'UNICEF. Il est diffusé sur les antennes de Radio Okapi du lundi au vendredi de 15h30 à 17h. Cette émission nous mène aujourd'hui dans la région du Kasaï pour parler d'entrepreneuriat de jeunes qui est confronté aux nombreux défis. Il n'est d'aucun doute que le développement de l'entrepreneuriat de jeunes constitue un créneau porteur et une alternative à la création d'emplois, mais aussi dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Ainsi, l'entrepreneuriat se présente comme une solution aux problématiques socio-économiques de jeunes. Mais, dans la région du Kasaï, l'entrepreneuriat de jeunes reste confronté à plusieurs défis qui impactent son développement. Nous en parlons dans cette émission mise en onde par Diedone Nyangasawa Nyangasa. Je suis Sarah Soumbela à l'animation. Bienvenue à tous.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Malgré son rôle important, l'entrepreneuriat chez les jeunes, dans la province du Kasaï central, reste confronté à plusieurs défis qui impactent son développement. L'enclavement de la région, le manque d'électricité et d'eau, le manque d'infrastructures routières sont les facteurs qui ne permettent pas aux entrepreneurs d'avancer. Ajoutez à cela la faible implication des autorités locales et gouvernementales. Marcel Moulamba, coordonnateur de jeunes entrepreneurs du Kasaï central, nous décrit la situation au micro de Gisèle Cage.
Dans notre province, l'entrepreneuriat se passe pas du tout bien. Il y a vraiment des grandes difficultés pour entreprendre. Donc il faut avoir un cœur dur, il faut être fort, courageux même pour entreprendre parce que l'environnement ne nous permet pas d'entreprendre comme ailleurs.
Ça veut dire quoi, l'environnement ne vous permet pas?
Ça veut dire d'abord que notre province est au centre du pays. Mais malheureusement, cette position, c'est aussi une faiblesse pour nous parce que la province est enclavée. Donc nous sommes dans une province où si vous voudrez avoir des produits ailleurs, vous pouvez même faire 3 mois ou 4 mois alors que les clients ont besoin de ça.
Parce qu'il n'y a pas de route.
Il n'y a pas de route par exemple, il n'y a pas de route. Donc même le flux aérien n'est pas du tout réglé. Donc de tous côtés. Donc l'enclavement là, c'est une difficulté pour nous les jeunes entrepreneurs d'entreprendre. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté aussi, comment vous pouvez entreprendre dans une province où il n'y a pas de courant? Donc le Kasaï central depuis là, nous ne pouvons pas transformer ou fabriquer les produits que nous-mêmes nous pouvons produire, faute du courant. C'est parce que ailleurs il y a quand même des jeunes ou des entreprises qui donnent le courant, de l'énergie, l'énergie qui va servir toute une ville. Et ça, ça va encourager les jeunes entrepreneurs peut-être de fabriquer des gâteaux, de fabriquer d'autres choses. Mais alors que dans notre province, quand nous n'avons pas ce courant ici, il est impossible pour nous d'entreprendre. Autre difficulté aussi est liée aussi par rapport à la politique du gouvernement provincial, même le gouvernement national aussi. Nous avons vu notre province ont été appuyées. Par exemple, les chefs de l'État avaient parlé de faire les jeunes Congolais des millionnaires avec des différents fonds, avec la Banque mondiale et tout consort. Mais dans notre province, c'est la boîte MP. Nous n'avons pas à bénéficier ces fonds ici. Alors que nous pouvons demander au gouvernement provincial de pouvoir créer un fonds local pour encourager les jeunes entrepreneurs. Et la dernière difficulté que nous avons dans notre province, je peux parler de l'ignorance. Beaucoup de jeunes n'ont pas assez de notions sur l'entrepreneuriat et ne s'intéressent pas surtout à cette question-là. Voilà un peu les grandes difficultés que nous avons dans notre province pour entreprendre.
Il y a combien d'entrepreneurs aujourd'hui, si vous avez au moins le nombre en tête?
Ce travail-là, nous sommes en train de le faire parce que le but est d'identifier les jeunes entrepreneurs du Kasaï central. Nous avons constitué un logiciel qui nous permet d'identifier. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que nos enquêtes sont en cours. Mais déjà, nous avons plus de 300 jeunes entrepreneurs, mais dans 3 communes, il reste encore 2 communes, nous sommes en train d'enquêter, même quand je vous parle ici, nous avons déployé les gens sur terrain pour identifier les jeunes entrepreneurs.
Déjà 300 entrepreneurs identifiés, donc ça veut dire que de plus en plus, le jeune s'intéresse à l'entrepreneuriat.
Effectivement, les jeunes s'intéressent à l'entrepreneuriat. Dans notre province, je peux dire 60% de la population est majoritairement jeune. C'est comme ça que beaucoup de jeunes s'intéressent à l'entrepreneuriat. Mais les fonds, ou soit le capital, le moyen de démarrage qui est un peu minime, qui n'est pas du tout consistant.
Okapi, Metabendi Yamani.
Les entrepreneurs manquent souvent de conseils et de soutien pour améliorer leurs compétences et ne peuvent pas toujours trouver des partenaires commerciaux fiables. D'autre part, ils n'ont pas suffisamment d'accès aux informations et connaissances qui leur sont nécessaires pour réussir. C'est ce que déclare Juscar Katala, PDG de la firme KTL basée à Kananga, une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la transformation de produits agricoles et avicoles.
Ce n'est pas du tout facile parce que nous n'avons pas accès au financement, par exemple, comme nos amis qui sont à Kinshasa, nos amis qui sont à Goma. Récemment, j'ai eu à participer à un concours à Kinshasa. Nous étions confrontés avec les amis de Goma, de toutes les provinces. Mais nous avons vu qu'ils avaient une avancée assez significative par rapport à l'entrepreneuriat. Et ils ont accès facile au financement, ils ont accès facile aux formations. Et tout ceci nous met, nous, généralement, en retard. Nous sommes obligés de nous auto-former. Et généralement, la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, qui devrait normalement fonctionner ici, elle n'est actuellement malheureusement pas fonctionnelle, ce qui nous porte préjudice. Donc on n'arrive pas vraiment à être au même niveau que les autres. Nous sommes obligés de nous auto-former et nous ressourcer pour être au top.
Mais qu'est-ce qui vous manque exactement?
Ce qui nous manque pour le moment, nous n'avons pas de structure d'incubation, nous n'avons pas d'incubateurs qui peuvent nous aider, qui peuvent nous offrir ces opportunités-là d'être au même niveau que d'autres entrepreneurs.
Juscar Katala, PDG de la firme KTL, fabricant de la mayonnaise Mayo Bio, était au micro de Gisèle Cage.
Okapi.
L'entrepreneuriat se présente comme une solution aux problématiques socio-économiques de jeunes dans la province du Kasaï central. Mais de nombreux entrepreneurs qui ont de bonnes initiatives n'ont pas soit accès au marché, soit sont confrontés au paiement de multiples taxes, déplore Peter Bakandowa Chitumbu, président du Conseil provincial de la jeunesse.
Nous nous sentons abandonnés, nous nous sentons oubliés. Vous allez voir les jeunes entrepreneurs qui souffrent pour accéder au marché. Un jeune qui a des initiatives, qui a des bons projets, mais à cause des critères, il se voit obligé de se retirer. Il se voit obligé d'abandonner la lutte. Pourquoi? Parce que il se voit abandonné par les personnes qui sont censées lui accompagner et lui encadrer dans tous les secteurs de la vie. Prenons par exemple que dans le secteur de l'entrepreneuriat, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des initiatives, qui ont besoin d'un encadrement, mais qui ont des difficultés peut-être pour payer des taxes. Et l'État n'est pas même disponible pour encourager les initiatives des jeunes au niveau de la région. Voilà pourquoi, dans ce secteur, il y a trop de difficultés que les jeunes rencontrent. Il y a trop de problèmes que nous rencontrons. Voilà pourquoi nous disons que nous nous portons mieux grâce à nos efforts propres et nos efforts privés. Et nous n'abandonnerons pas la lutte, même si l'État ne fait rien.
Il est essentiel de mettre en place des politiques visant à faciliter l'accès au financement, à promouvoir l'entrepreneuriat auprès de jeunes et à élargir les occasions d'apprentissage et du mentorat. C'est ce que propose Peter Bakondowa Chintumbu, une fois de plus au micro de Gisèle Cage.
Il y a du désordre au niveau des structures étatiques qui doivent s'occuper de l'encadrement des entrepreneurs et surtout des jeunes entrepreneurs qui ont le souci de se lancer en entrepreneuriat. Les jeunes qui se lancent ont la volonté de se lancer, ils ne sont pas encadrés par les services qui sont censés encadrer les jeunes entrepreneurs. Il n'y a pas suffisamment de formation, il n'y a pas de banque de microcrédit qui peuvent aider les jeunes à avoir des crédits pour se lancer au moment où dans d'autres provinces ça se passe. Donc l'entrepreneuriat au Kasaï central, ça pose le problème parce que
personnes, en commençant par l'État lui-même au niveau de la province, les divisions, le ministère, le gouvernement, personne ne s'occupe de ce travail. Il y a un grand problème et un grand vide. Voilà pourquoi je me dis qu'au Kasaï central, si rien n'est fait, les jeunes vont toujours continuer à pleurnicher et rencontrer des difficultés. Donc il y a un souci, nous nous disons, que l'État puisse d'abord mettre de l'ordre dans le secteur entrepreneurial, en commençant par les services de l'État, et puis accompagner les jeunes entrepreneurs en formation, former les jeunes entrepreneurs, avoir une maison qui doit s'occuper de l'entrepreneuriat, donc la formation des jeunes entrepreneurs au niveau de la province du Kasaï central, et ça sera une bonne chose. Troisièmement, nous demandons à l'État d'exonérer, donc accorder une exonération aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en entrepreneuriat.
Peter Bakando à Chitumbu, président du Conseil provincial de la jeunesse au Kasaï central, s'entretenait avec Gisèle Cage.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue à cette deuxième partie de votre émission Bana Okapi, l'émission de jeunes qui est consacrée aujourd'hui sur l'entrepreneuriat de jeunes dans la région de Kasaï. Les jeunes entrepreneurs de Kananga dans la province du Kasaï central et celle de Mbujimayi au Kasaï oriental vont nous présenter leurs entreprises et des défis auxquels ils font face. Nous allons clôturer cette émission avec Joël Tembo-Vira. Il est fondateur de Kivu Entrepreneur, basé à Goma, dans la province du Nord Kivu. Il sera notre invité.
Okapi, Okapi, Okapi.
Rendons-nous à Kananga, où l'entreprise BioAfrica s'est lancée il y a 2 ans dans la production des volailles, de œufs, ainsi que des engrais organiques à partir de déchets alimentaires. Selon Héritier Massambila, chef de l'entreprise BioAfrica, la production de protéines écologiques pour les volailles contribue à l'assainissement de l'environnement. Dans cet entretien avec Gisèle Cage, Héritier Massambila parle notamment de défis que rencontre son entreprise ainsi que de nombreux jeunes entrepreneurs au Kasaï central. Suivez.
Voilà, je m'entretiens avec Monsieur Héritier Massambila, qui est entrepreneur, chef d'entreprise BioAfrica. Vous êtes dans la production de volailles, de œufs, et production d'aliments, de volailles, et puis des engrais organiques. Nous sommes où précisément à cet endroit?
En fait, ici, nous sommes dans notre laboratoire artisanal, où nous luttons vraiment pour augmenter la production. Nous avons essayé dans ce laboratoire la production de protéines écologiques, une alimentation moins coûteuse, qui nous facilite aujourd'hui à essayer de rentabiliser le projet d'élevage.
Expliquez-nous, je ne sais pas, ça ce sont des feuilles?
Non, ce ne sont pas des feuilles, ce sont des déchets alimentaires que nous récoltons dans les riz. Ce sont les déchets qui traînaient dans le riz et qui disposaient la population contre les maladies d'insalubrité. Mmh. Aujourd'hui, ces déchets sont transformés dans quelque chose d'utile. On les apporte ici dans notre laboratoire artisanal, on les conserve. Ces déchets se décomposent, ça nous facilite d'accumuler, d'avoir des larves. Et ces larves-là, nous les nourrissons pour donner au bétail, aux volailles et aux poissons.
C'est quel type de déchets que vous ramassez dans la cité pour amener ici? C'est tout type de déchets?
Les déchets alimentaires.
Les déchets alimentaires uniquement.
Les déchets alimentaires uniquement.
C'est ce que nous voyons ici.
Oui, c'est
ça. Ça n'a pas encore commencé la transformation.
Il n'y a pas encore la transformation. On vient de les ramasser il y a 2 jours. Mmh. On va attendre un peu de temps qu'il y ait une décomposition.
Mais pour qu'il y ait décomposition, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? Vous laissez ça à l'air libre ou bien il y a des produits que vous mettez à l'intérieur?
Comme on n'a pas de machine pour les transformer directement en pâte, nous les faisons d'une manière artisanale. On va attendre ces déchets, vont se décomposer d'eux-mêmes et par après, on va commencer le processus de production d'aliments. Dans les bacs que vous voyez là, c'est là à l'intérieur où il se fait l'évolution des larves. Okay. Les larves évoluent à l'intérieur. Après un certain temps, on va prendre ces larves pour donner aux poulets. Les larves vont consommer pendant 2 semaines. Après 2 semaines, on donne ça aux volailles.
Mais pourquoi avoir choisi cette technique?
Le départ sur le projet, nous sommes partis d'une étude qui prouve que la République démocratique du Congo importe chaque année 90% des protéines animales. Et la RDC pour importer cet aliment dépense au moins plus de 3 milliards de dollars. Nous sommes pensés que l'unique solution qu'on peut sauver le Congo, contribuer à la croissance économique, nous devons produire localement. On s'est focalisé sur la production de volailles. En se lançant dans ce secteur, on a eu compte à faire à plusieurs défis, entre autres l'importation de poussins et l'importation de l'aliment. Et en important les aliments, ça ne facilite pas les éleveurs congolais à rentabiliser leurs projets. C'est pour cela que nous sommes partis d'une étude. Comme nous sommes dans l'écosystème, nous luttons contre la déforestation. Nous sommes partis d'une étude de montrer comment on peut produire une protéine écologique à base de déchets alimentaires qui traînaient dans les riz et nous les prenons, on les transforme à une alimentation moins coûteuse qui va faciliter les éleveurs à rentabiliser leurs projets. Aujourd'hui, nous essayons déjà de produire l'aliment pour se servir de nos poulets. Nous n'avons pas une forte capacité de produire beaucoup pour faciliter aussi d'autres éleveurs.
Mais c'est ce que je vois aussi, la production, elle n'est pas beaucoup, c'est ce que je vois. C'est tout ce que vous produisez et ça c'est pour combien de temps?
Ouais, ce que nous produisons, ça nous facilite déjà par semaine d'atteindre 50 kilos d'aliments seulement ici.
Et il faut une semaine pour la transformation.
Deux semaines, nous récoltons déjà des larves et nous donnons ça aux volailles. Les volailles que nous facilitons la consommation avec les larves, il y a une forte croissance rapide. Nous gagnons en temps et les volailles qui arrivent à se nourrir d'eux-mêmes, il n'y a pas facilité, il n'y a pas une bonne croissance.
Et en moyenne, par mois, vous produisez combien? Vous pouvez avoir combien de volailles?
Aujourd'hui, on peut arriver jusqu'à livrer 150 poulets par mois, des plateaux de œufs 50 aussi par mois.
Et le marché d'écoulement, c'est uniquement ici à Kananga?
Oui, c'est uniquement à Kananga. La vision vraiment est d'augmenter la production afin de servir aussi d'autres régions. Nous n'avons pas cette capacité-là pour augmenter la production.
Vous avez commencé avec combien dans ce projet, combien de volailles dans ce projet et vous en êtes à combien aujourd'hui?
Au départ, on a commencé le projet avec 25 poussins. On essayait d'expérimenter. On a expérimenté, on a commercialisé. Et en partant de ces 25 sujets, on a vu des difficultés énormes. Comment écouler les produits? Et quand on importait les poulets, on importait les aliments, il n'y avait pas moyen de vendre le poulet à un prix compétitif. Alors, on a pensé à produire notre alimentation. Aujourd'hui, on part jusqu'à 500 têtes. On s'approvisionne en poussins et on le lait pendant 45 jours. Nous le mettons au marché à un prix compétitif.
Combien à peu près?
À peu près 16 000, 14 000.
Et ça s'achète, ça coule facilement?
Exactement.
Alors maintenant, où est-ce que vous avez appris toutes ces techniques que vous nous présentez aujourd'hui?
Vous voyez, aujourd'hui, quand on est passionné de l'entrepreneuriat, vous voyez, quand on essaye, on échoue, on se fait moquer par des amis. Et parfois, on perd l'espoir. Quand on n'abandonne pas, certains pensent que c'est par orgueil, mais c'est juste parce que la conviction que vous avez en vous est plus forte que tout ce que vous ressentez comme découragement. On a essayé, on a échoué, on a mené des études, parce que ce sont des techniques qui se passent dans certains pays pour conserver l'écosystème. Aujourd'hui, le combat, c'est de conserver la forêt du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon au monde après l'Amazonie. Et ces forêts disparaissent parce qu'il faut déforester pour produire de la protéine liée à la consommation humaine et à la consommation animale. Alors, pour éliminer cette hémorragie de déforestation, on doit couper directement la déforestation liée à la consommation des protéines animales. On pense à une protéine écologique qui contribue à l'assainissement de l'environnement. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 8 personnes. Il y a des jeunes sur terrain qui récoltent des déchets alimentaires. Donc, tous ces jeunes qui passaient leur temps à la maison sans rien faire, aujourd'hui sont sur terrain, ils récoltent des déchets alimentaires. Et nous venons avec ces déchets alimentaires ici, on les transforme en quelque chose d'utile. Donc, on a mené des études en voyant que la protéine qui vient des insectes, c'est vraiment utile. Ça peut faciliter à nourrir le volaille.
Mais combien de provinces en RDC appliquent cette méthode, si vous avez une idée?
Ça peut être 3 provinces ou 2. Il y a un jeune entrepreneur qui évolue aussi dans le même domaine aux côtés de l'Est du pays. Pour Akananga ici, jusqu'alors, nous sommes seuls. On est tenté de lutter pour augmenter ces projets afin de servir tous les éleveurs. Parce que vous remarquez que les éleveurs abandonnent pour une alimentation moins coûteuse. Quand vous faites l'importation des aliments, l'importation des poussins, vous ne pouvez jamais servir la population. C'est ça, moi, le problème.
Comment vous faites pour faire passer votre message à d'autres producteurs, par exemple, de volailles? Comment vous faites pour le convaincre, par exemple, d'utiliser des larves pour leurs volailles?
Nous sensibilisons tous ces gens-là qui sont dans l'élevage des volailles, les entrepreneurs qui évoluent, qu'aujourd'hui nous essayons d'apporter une solution. Nous, on fait partie des domaines, c'est quelque chose qu'on est en train de pratiquer régulièrement. Nous connaissons les difficultés et les défis qu'il faut relever. Le plus grand défi qui bloque le élevage des volailles, c'est l'alimentation. Et aujourd'hui, si on essaye d'avoir les soutiens, d'accompagnement pour augmenter notre capacité de production, je crois qu'on va répondre à plusieurs défis dans la province. Aujourd'hui, ce projet a plusieurs impacts. Le projet contribue à l'assainissement de l'environnement. Nous récoltons les déchets qui poussaient la population à plusieurs maladies, les maladies liées à l'insalubrité. Aujourd'hui, on récolte ces déchets, les transforme en quelque chose d'utile. Vous voyez que l'impact que le projet apporte, non seulement pour la consommation des volailles, mais le projet contribue à l'assainissement de l'environnement, le projet contribue à la consommation des volailles et on doit mettre aussi notre provente au marché. Si nous les produisons localement, elles doivent vraiment être de bonne qualité.
Quels sont les points forts de ce projet et quelles sont les difficultés que vous avez?
Les points forts de ce projet, premièrement, vient résoudre plusieurs problèmes, entre autres les problèmes de chômage. Depuis qu'on a commencé ces start-up il y a plus de 2 ans, on n'a jamais eu un accompagnement financier et un encadrement. On a été au concours national de Djanihu UNICEF, on a été lauréat dans la province, nous sommes partis au concours Djanihu UNICEF où le projet est encore en processus. Le gouvernement provincial ne prévoit rien comme budget pour accompagner le jeune entrepreneur qui évolue dans la province. C'est pour cela que vous remarquez que beaucoup de jeunes quittent cette province pour manque d'accompagnement. Vous voyez, nous méritons aussi mieux que les jeunes entrepreneurs qui évoluent à Kinshasa. Vous voyez, à Kinshasa, après chaque trimestre, il y a des concours, il y a des financements. Et nous avons besoin de cet écosystème-là. Nous avons besoin d'un environnement comme ça qui pousse les jeunes à innover plus. Quand les jeunes remarquent que les jeunes qui se battent, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ne sont pas accompagnés, comment ils vont être motivés? Donc, les jeunes vont se lancer, être motivés en voyant les résultats que d'autres jeunes prouvent. Il a été accompagné, mais nous, on n'a jamais été accompagné financièrement. Nous nous battons avec nos moyens. Or, ce que nous faisons, c'est utile. Nous voulons contribuer à la croissance économique. C'est ça. Aujourd'hui, le pays comme Brésil est le 10e pays au monde grâce à l'exportation de produits agricoles. Pourquoi pas penser à mettre ce système, accompagner les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat afin d'apporter une solution, contribuer à la communauté, créer des emplois et diversifier notre économie. Si nous voulons avoir des entrepreneurs de qualité, on doit les accompagner. Vous voyez, quand on est start-up pour avoir des soutiens, c'est toujours un problème. Alors, il faut créer vraiment l'écosystème qui encadre. Il y a aussi un problème avec les incubateurs. Ici, il n'y a pas des incubateurs qui se donnent. Parce que dans l'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait un accompagnement en matière fiscale. Il faut qu'il y ait un accompagnement en marketing. Donc, vous voyez que nous sommes dans un domaine que nous devons beaucoup apprendre. Alors, pour apprendre, on doit être encadré par les mentors, on doit être encadré par les institutions qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. Enfin, nous avons de meilleurs projets. Mais il y a un problème que ces projets puissent être structurés afin d'apporter une solution. Quand les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat dans la province du Kasaï central et ces jeunes ne sont pas accompagnés, c'est ce qui pousse ces jeunes à quitter la province. Parce que nous voyons ailleurs, au moins il y a un accompagnement. C'est pour cela que nous interpellons nos autorités. Quand il s'agit de financer certaines personnes, ils financent sa exigence. Mais quand il s'agit de financer le jeune entrepreneur, vous allez remarquer, on va vous demander trop de documents. Mais ils dépensent de l'argent dans des choses, ils financent les gens, il n'y a pas de conditions. Pour financer les projets qui apportent une solution dans la population, il y a toujours trop de conditions. Donc, dans ce sens-là, l'État aussi va revoir la manière d'accompagner le jeune entrepreneur.
Héritier Massambila, j'appelle que vous êtes chef d'entreprise BioAfrica. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup d'être venu visiter nos activités.
Allons à présent au Kasaï oriental pour découvrir l'entreprise Nyota Business qui est dans la transformation de feuilles de manioc dans la ville de Mbujimayi. Malgré les défis, Rufin Mukinaï, directeur général de l'entreprise Nyota Business, encourage les jeunes à entreprendre. Suivez.
Rufin Mukinaï, vous êtes jeune entrepreneur ici au Kasaï oriental. Parlez-nous de votre activité.
Merci madame. Je suis responsable directeur général de l'entreprise Nyota Business. Mon entreprise est multisectorielle, mais je suis beaucoup plus focalisé sur l'agriculture. Et dans l'agriculture, je produis des boutures de manioc. J'utilise le feuille de manioc qu'on appelle communément pondou. Je les transforme. J'ai une machine, une moulineuse. Je prends les feuilles de manioc, je les transforme, je les mets dans des sachets et j'écoule. je vends. Et après
sur le marché ou bien par commande?
Je vends par commande, par commande, parce que
selon la demande, quoi, selon vos clients.
Oui, selon la demande, parce que jusque là, je n'ai pas encore commencé à produire en grande quantité pour que je puisse commencer à ouvrir un guichet où je peux commencer à vendre ça. C'est surtout cette activité que je suis en train de faire pour l'instant.
Est-ce que c'est facile d'entreprendre dans cette province, le Kasaï oriental?
Je dirais c'est pas du tout facile, parce que pour commencer, c'est difficile. Tout début a été toujours difficile. Et ici au Kasaï, on sait que la vie est difficile. Pour avoir les moyens d'abord pour commencer une activité, c'est compliqué. C'est compliqué, il n'y a pas l'argent qui circule. C'est ce qui nous a poussé aussi à entreprendre pour être indépendant.
Mais votre entreprise, vous l'avez commencée il y a combien d'années?
J'ai 3 ans et dans les 3 ans, j'ai travaillé 2 ans illégalement. Une année, j'ai travaillé légalement parce que j'ai commencé à travailler à l'informel. Et après, j'ai vu qu'il y avait nécessité que j'aie les documents pour que mon entreprise soit légale.
Avez-vous aujourd'hui des associés avec qui vous travaillez?
Non, jusqu'à là, je suis seul.
Vous possédez un champ ou bien comment ça se passe?
Oui, j'ai 1 hectare et d'autres hectares, je loue.
Votre entreprise est une réussite? Quels sont les défis que vous rencontrez?
Je dirais que mon entreprise est une réussite parce que dans ce que j'ai fait, je me retrouve. Parce que le feuille de manioc qu'on appelle Pondou est très consommé ici au Kasaï oriental, en Bougemaï. J'ai certains clients qui amènent leur propre Pondou déjà pour juste utiliser la machine que j'ai. Si vous amenez le Pondou, vous ne faites même pas une minute que d'être là à la maison en train de piler comme on les fait toujours.
Comme vous travaillez déjà, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
Ouais, les difficultés que je rencontre, il y a une difficulté de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, les gens qui cultivent, j'utilise les personnes, je n'ai pas encore assez de moyens pour commencer à utiliser les tracteurs. Et des fois, ça pose problème, il faut les rémunérer. Et puis, le travail n'avance pas. Hein. Aussi, la permanence du courant, le courant qui n'est pas permanent, le manque du courant, ça préjudicie parce que cette machine-là fonctionne avec le courant. Et quand il n'y a pas du courant, notre ville, le courant, ce n'est pas stable. Vous êtes là en train de travailler, il y a des clients qui attendent, mais du coup, il y a coupure. Là, c'est l'argent que je suis en train de perdre.
Quel conseil pouvez-vous donner pour promouvoir l'entrepreneuriat ici au Kasaï oriental?
Moi, je vais demander aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un domaine qui fait développer un pays. Parce qu'en tant que jeunes, nous sommes l'avenir de ce pays. Et si nous nous lançons presque tous dans l'entrepreneuriat, je crois bien que même ce pays va se développer. Parce que ce sont des activités que nous aurons à mener qui feront à ce que les pays se développent. Parce que tout ce qu'on produit, on peut commencer à les vendre même ailleurs. J'invite vraiment les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat.
Refin Moukinaï, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, maman.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Kapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service.
Écoutons cette fois-ci Joël Moulomba, chef d'entreprise Liberté Solutions, nous parler aussi de son entreprise qui est spécialisée dans l'agriculture maraîchère.
Monsieur Joël Moulomba, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes aussi jeune entrepreneur et on vous trouve ici à Mbujima et dans la province du Kasaï oriental. Vous avez investi dans l'agriculture. Pouvez-vous nous parler d'abord de votre activité et qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre?
Merci. J'ai mon entreprise qui s'appelle Liberty Solution, Liberté Solution, qui œuvre dans l'agriculture maraîchère, les épices, les légumes. On produit la tomate, poireaux, les oignons. Pour ce qui est des légumes, nous produisons les choux. Comme nous sommes pendant la saison sèche, nous produisons les choux paumés, donc les choux de Milan. Nous produisons aussi les choux de Chine, donc ce qu'on appelle les choux de Pékin. Les gombos, comme nous sommes pendant la saison sèche, c'est ça en fait ce que nous faisons à ce moment.
Qu'est-ce qui vous a poussé dans l'entrepreneuriat?
On est jeune, on est du Kasaï. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois, on s'est dit, ben voilà, on peut quand même créer. Donc c'est la raison pour laquelle on est là.
Depuis que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a changé dans votre vie?
Je peux dire ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est le fait d'être indépendant.
Vous dites que vous êtes dans l'agriculture maraîchère. Y a-t-il de bénéfices dans ça?
Je peux dire oui. Tout le monde consomme quand même les légumes, bien que Il y a les défis à relever.
Lesquels, par exemple?
Comme par exemple la main d'œuvre. Comme nous sommes pendant la saison sèche, il faut à chaque fois arroser. Donc, il faut les gens pour ça. C'est ça le grand problème, la main d'œuvre. Nous sommes encore au début, on est jeunes. Tout ça, ça nous complique quand même, mais nous forçons.
Y a-t-il de plus en plus de jeunes ici au Kasaï oriental qui veulent ou bien qui se lancent dans l'entrepreneuriat?
Oui, il y en a.
Est-ce que vous avez reçu des formations au préalable avant de vous lancer ou bien...
Des formations, au fait, on peut dire non. Seulement en évoluant, on est en train de s'auto-former, quoi. Avec l'Internet et tout ça, on est en train de s'auto-former quand même. Et on évolue comme ça. Quand on a des difficultés, on essaye quand même de contacter les gens qui ont plus d'expérience et on évolue comme ça.
Mais la situation des jeunes ici au Kasaï, c'est laquelle? Est-ce que les jeunes ont la facilité d'avoir un emploi, de se promouvoir?
Ici en Mbujimayi, pour ce qui est de la jeunesse, on fait face à beaucoup, beaucoup de difficultés.
C'est lequel par exemple?
L'encadrement. Tu peux être là, tu finis tes études. Pour avoir un boulot, c'est compliqué en fait. Bon, il faut par exemple être de la famille de quelqu'un qui est déjà renommé. Là, tu peux te retrouver facilement. Et quand on lance l'offre d'emploi, il y a des exigences qui compliquent davantage. Comme par exemple les années d'expérience. On peut dire, voilà, on cherche quelqu'un qui a déjà 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Et pourtant, toi, tu viens fraîchement de quitter l'université, donc c'est ce qui complique beaucoup. On est quand même là.
C'est quoi le conseil que vous pouvez donner à tous ces jeunes-là qui partent de cette province?
Comme étant un jeune entrepreneur, ce que je peux donner comme conseil aux jeunes qui quittent notre province pour aller ailleurs, premièrement, c'est le courage. Donc il faut avoir le courage d'enfronter. Et aussi, il faut chercher à être autonome, s'autosuffire. C'est aussi bien dans la vie que chercher à être employé de quelqu'un, tout ça. Nous, déjà, à l'avenir, ils vont nous envier. Peut-être que quelqu'un qui a quitté ici pour aller ailleurs, peut-être dans 5 ans, il reviendra pour travailler pour moi. Donc, il faut profiter surtout quand on est jeune, beaucoup travailler. À un certain âge, déjà, tu vas engager des gens. Donc, tu seras autonome et puis tu vas te faire un nom. Le courage d'enfronter les choses, c'est aussi bien. Et aussi profiter quand on est encore à flair d'âge, oui, pour faire beaucoup de choses.
Joël Moulumba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Okapi. Encore plus d'infos.
L'entreprise Le Palmier est spécialisée dans la fabrication de l'huile de palme dans la ville de Mbujimayi. Mais l'écoulement de l'huile de palme sur le marché pose un sérieux problème. C'est ce que nous dit le PDG de cette entreprise, Fabien Fouamba. Tamboa, on l'écoute.
Monsieur Fabien Fouamba, Tamboa, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes aussi jeune entrepreneur ici au Kasaï oriental. Dans quoi avez-vous investi?
Oui, bien merci pour la question. Il est vrai que je suis le jeune entrepreneur au Kasaï oriental. L'entreprise est intitulée Les Palmiers. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise Les Palmiers? Les palmiers, c'est l'un des arbres qui produit beaucoup dans la société, qui produit autant d'avantages dans la vie sociale. Plus loin, vous constaterez que avec les palmiers, nous avons l'huile de palme. Avec les palmiers, nous avons les balais. Avec les palmiers, nous avons les rameaux, les bambous, qui viennent en aide dans notre vie sociale. Et les palmiers nous facilitent à beaucoup de besoins primaires. Mais l'élément qui nous intéresse beaucoup plus avec les palmiers, c'est la transformation de l'huile de palme.
C'est l'activité principale de votre entreprise?
L'activité principale de mon entreprise, la transformation de l'huile de palme.
Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre dans ce domaine-là?
La raison majeure est celle-ci. Il est vrai que la plupart des produits que nous consommons, ces produits ne sont préparés qu'avec l'huile de palme. Et à un moment donné, on s'est retrouvé devant une carence de l'huile, nos produits à nous, au niveau local, mais la production, elle est minime, mais la consommation, elle est un peu augmentée. Vu cette difficulté, je me suis dit, moi, personnellement, qu'il serait mieux que je puisse me lancer dans ces projets pour lesquels projet est la transformation des huiles de palme. On consomme beaucoup, mais on produit moins. Voilà un peu la raison majeure qui m'a poussé à ce que je puisse me lancer dans cette activité précise.
Il y a de plus en plus une carence en huile de palme dans la province.
Dans la province, il y a carence de l'huile de palme.
Ça arrive très souvent.
Ça arrive très souvent.
Et ça fait combien de temps que vous vous êtes lancé dans cette activité et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui?
Ça fait plus de 6 ans que je me suis lancé dans cette activité. Et au moment... Au moment que j'amène cette production sur les marchés, et vous allez constater quand même qu'il y a les changements des hausses des prix. Quand j'amène, baisse des prix. Et à un moment donné, si les produits deviennent rares sur les marchés, ipso facto, il doit y avoir hausse des prix. Oui.
Vous produisez quelle quantité exactement?
En fait, avec les systèmes manuels, je produis au moins par mois, à la fin du mois, 200 litres.
Vous avez votre propre champ?
J'ai l'étendu. Les 5 hectares.
Mais quels sont les défis que vous pouvez relever depuis que vous vous êtes lancé dans cette activité?
Les systèmes manuels, quant à la production de l'huile de palme, c'est un système qui est trop lent. Et c'est un système qui me met devant une difficulté de ne pas produire la quantité suffisante. Pourquoi? Parce que quand vous pilez avec ce système, vous constaterez que au moment que vous êtes en train d'extraire l'huile. Mais il y a d'autres huiles là qui restent, mais incapables de les extraire, par contre, avec les systèmes de pilage. Mais si c'était à la machine moderne, nécessairement la machine devrait travailler, extraire l'huile jusqu'à la dernière quantité. Premier défi. Deuxième défi, au moment que la quantité, nous la produisons sur les marchés et que l'achat ou la vente pose problème, je me retrouve dans l'impossibilité de pouvoir avoir les moyens me permettant d'élargir les champs ou les hectares pour que je puisse multiplier le nombre de palmiers. Deuxième défi. Troisième défi, les travailleurs qui sont dans l'entreprise doivent être suffisamment bien payés.
Et ils sont combien?
Ils sont 8. Mais au moment que je produis une petite quantité, la vente sur les marchés pose problème. Cela a l'impact sur les salaires du travailleur. Et au moment que les travailleurs ne sont pas suffisamment payés, ils ne vont pas rendre les services de qualité. Donc voilà un peu, en quelque sorte, les difficultés. Oui. Et aussi, la distance de là où se trouve la ferme ou les champs. Mais il faut avoir un moyen de transport. Les travailleurs peuvent aller là-bas, faire les pieds, y arriver s'ils n'ont pas bien mangé, mais ils n'auront pas la force de travailler comme il se doit, suite à la distance. Laquelle distance qui nécessiterait un moyen de transport? Lesquels moyens de transport qui vont exiger les frais? Lesquels frais aussi? Oui, comment en avoir au moment que la production elle est d'une petite quantité, la vente pose problème.
Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à écouler facilement vos produits? C'est quoi qui est à la base de ça?
Nous faisons l'effort de pouvoir les vendre, pas en détail, mais nous faisons l'effort de les vendre par un système de ce qu'on appelle les grossistes. Donc on vend
en gros.
Ouais. On peut vendre un bidon, des bidons. Ceux qui vous achètent ces bidons, ils partent aussi revendre. Quelqu'un peut vous payer un bidon de 20 litres. Il part vendre ça en détail. Au moment que la personne qui vous a acheté un seul bidon, au moment qu'il n'a pas encore vendu son bidon acheté,
il ne va pas revenir.
Et se posant la question pourquoi il ne vend pas comme il se doit, là il y a un accent que nous mettons par rapport à la conjoncture économique. Si les détaillants ne vendent pas, ils ne seront jamais de retour chez moi pour en acheter encore. Voilà un peu, quand ils connaissent des petits problèmes, leurs petits problèmes, leurs difficultés ont l'impact sur nous, entrepreneurs. Et ça va prendre 3 semaines, 2 semaines peut-être pour écouler.
Mais est-il vraiment facile d'entreprendre dans cette province?
La facilité comme telle, c'est hypothétique. Pourquoi? Parce que nous, étant déjà dans ces domaines sur terrain, mais les défis tels que nous sommes en train de les développer, c'est X, Y venir aussi, il va comprendre que ce n'est pas facile. Que plutôt prendre des dispositions pour nous venir en aide ou bien pour amener les remèdes par rapport à ce que nous avons comme défi. Et à ce moment-là, vous constaterez que c'est là qu'ils peuvent être prêts à nous emboîter les pas. Ils doivent voir que non, quand même, ça promet. Ils peuvent aussi nous suivre derrière. Mais
donc, ils sont découragés, quoi.
Nécessairement découragés. Pourquoi? Parce qu'en commençant par, nous sommes en train de se lamenter à tout moment. Mais nécessairement. Et quand ceux qui veulent nous rejoindre comprennent de quelle manière nous sommes en train de s'inquiéter, ils n'auront pas le courage de nous emboîter les pas.
Avez-vous un accompagnement, par exemple, du gouvernement congolais?
Non. De ce côté, rien.
Comment vous faites pour vous former?
C'est avec nos efforts personnels. À des fois, on peut se donner la peine de beaucoup plus se concentrer sur des réseaux sociaux, mais avoir une formation appropriée comme telle, c'est compliqué. Mais s'il y en avait, cette formation doit être financée.
Monsieur Fabien Fouamba, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie davantage.
Bon, comment on va couler disama, diatune kamu ditu ngadi akongo mungalata. Chibambalu chamenu, udita ilmalo pokolo wambidi. Arbi kala balongolola, moja matukudi kumnia sa todi matukudi kumnia tano. Angondo kabala shufu unenku. Badini chabu akusala ban. Niba efesha bana vitamin A, ni bwanga budi ba vitleni albendazole, bwanga ba misand. Arwa hise bana balelele luto ni ba kubidi mbitano. Hakumusha professor Tanganyika, niba kala chabu akusala ban to ni ba kubidi mudi kumini bitano. Kibalu kala arbi kala balomba baledi ba ban. Ni bande Bani ba minga na bikale ni chabu akuito kunzubu ni kunzubu abambu lishaku bakumana mwakusa la bubana jisa la jabana mjileze ni mkuba nanga jisa la jabana mkuba kuba.
Malgré les avantages potentiels de l'entrepreneuriat, de nombreux obstacles empêchent les jeunes entrepreneurs d'atteindre leurs objectifs. Les entrepreneurs manquent souvent de conseils et de soutien pour améliorer leurs compétences et ne peuvent pas toujours trouver de partenaires commerciaux fiables. Alors, comment les entrepreneurs du Kasaï peuvent-ils s'en sortir au regard de tous les défis révélés? Joël Tembo Vuira, fondateur de Kivu Entrepreneur, basé à Goma, est notre invité. Il est joint par Gisèle Cash.
Joël Tembo, bonjour.
Oui, bonjour Gisèle, bonjour à tous les auditeurs de Banan Okapi.
Voilà, vous êtes responsable de Kivu Entrepreneur, basé à Goma, au Nord Kivu. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes entrepreneurs du Kasaï qui sont confrontés à plusieurs défis pour promouvoir l'entrepreneuriat?
Et tout d'abord, je partage ma sympathie à tous ces entrepreneurs qui se débattent au niveau du Kasaï. C'est une région qui connaît encore beaucoup de soucis. J'ai été là, de passage, c'était fin 2022. J'ai même fait la route. Donc, il y a pas mal de problèmes que les entrepreneurs de là connaissent. Et le problème principal, c'est l'enclavement. L'enclavement qui a plusieurs implications. Donc, les coûts très élevés des intrants, des équipements qui arrivent difficilement. Et les conseils que je donne aux entrepreneurs, c'est de ne pas vraiment reculer, ce n'est pas reculer. Pourquoi? Parce que c'est une zone aussi qui offre plusieurs perspectives. Parce qu'il faut dire que plus une zone connaît beaucoup de problèmes, plus il y a plusieurs options d'entreprendre. Donc pour moi, des entrepreneurs qui se retrouvent là-bas, ils ont aussi plusieurs options pour répondre à différents besoins qui s'y rencontrent. Mais lorsqu'il y a ce défi-là d'accessibilité difficile, donc il faut privilégier des activités qui permettent de répondre aux besoins en interne. Et pour moi, la plus grande opportunité aujourd'hui que je vois au Kasaï, c'est l'agriculture. Parce que si vous produisez tout ce qui est comme produit à manger, donc le marché est là, le circuit interne est là, il va tout absorber. Mais aussi pour ceux qui veulent se lancer dans la transformation, c'est question d'ajuster votre prix en fonction du coût d'acquisition des intrants. Donc, il y a toujours des solutions dans une zone lorsqu'il y a des soucis. Et ce que je voudrais surtout donner, c'est qu'il y a des très bonnes perspectives. Il y a plusieurs projets qui sont annoncés dans cette zone-là, notamment ces projets de Transform. Je ne suis pas l'interlocuteur pour en parler, mais je sais que c'est un projet dont plusieurs jeunes qui nous suivent sont déjà au courant. Et ceux qui sont dans les conditions qui seront publiés, je sais qu'ils seront aussi soulagés par cette opportunité-là.
bon, vous les encouragez à continuer, de ne pas lâcher, mais il y a aussi des jeunes qui ont des initiatives, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais quand ils voient que les autres n'évoluent pas, ils sont découragés. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Bon, l'entrepreneuriat, ce n'est pas comme la mathématique où 1 plus 1 égale 2. Donc, il faut dire que là où quelqu'un peut échouer, quelqu'un d'autre aussi peut réussir. Ce qui est là, ça dépend de la motivation, ça dépend du degré vraiment de détermination, et surtout ne pas se fatiguer. Parce que pour nous, un entrepreneur ne blâme pas les contextes. Dans chaque contexte donné, il y a toujours des opportunités liées à ces contextes-là. Et moi, comme je l'ai dit, je recommanderais plus des activités qui répondent aux besoins en interne. Et je sais que c'est un milieu qui connaît des soucis, mais quand même, lorsqu'on observe au quotidien, nous voyons que le circuit économique est fonctionnel. Donc, la vente et l'achat des biens et des services se poursuit. Et donc, nous avons le marché qui est là. Et lorsque le marché est là, ça constitue une opportunité pour les entrepreneurs. Maintenant, le grand défi, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes. Mais pour moi, tant que la contrainte sécuritaire n'est pas là. Pour moi, la contrainte la plus difficile, c'est la contrainte sécuritaire. Mais je sais que déjà, au niveau de ces zones-là du Kasaï, la sécurité, c'est déjà un atout. Comme il y a la sécurité, je me dis, donc, il y a lieu de ne pas vraiment se décourager, de continuer à lutter. C'est vrai, il y a un enclavement routier, mais il y a des solutions alternatives. Par exemple, à Mbujimayi, comme à Kananga, vous avez toujours l'accessibilité par voie aérienne. Et l'entrepreneur ne blâme pas les contextes. L'entrepreneur recourt aux solutions qui sont disponibles. Donc, ce que je vais recommander à celui, par exemple, dont les entrants vont arriver par voie aérienne, c'est de bien faire les calculs de sa marge bénéficiaire de façon à ne pas vendre à perte. Et je sais que la population est nombreuse dans cette zone-là. Et pour moi, c'est l'élément de base pour qu'un entrepreneur puisse exister. Le marché, les clients. Et comme les clients sont là, donc il y a une raison d'avoir espoir. Et surtout aussi que les gouvernements annoncent des perspectives dans cette zone-là. Il y a des perspectives d'ouverture des différentes routes, que ce soit des routes nationales comme des routes et des certes agricoles. Et avec ces bonnes perspectives, et surtout aussi ces entrepreneurs doivent se regrouper et continuer à faire des plaidoyers pour faire écouter leur voix auprès des autorités nationales, qui, je suis sûr, seront sensibles et ne tarderont pas d'agir.
Mais vous avez soulevé la question du marché. Vous dites que le marché, les marchés sont là, effectivement. La population qui doit consommer, elle est là aussi. Mais ces entrepreneurs avec qui je me suis entretenu personnellement disent qu'il y a aussi ce problème d'écoulement de leurs produits sur le marché. Du fait de la pauvreté dans cette région, les produits ne sont pas écoulés facilement.
Là, il faut faire vraiment des bonnes études. Est-ce que tous les produits alimentaires qui sont produits sont totalement écoulés? Est-ce qu'il y a vraiment saturation au niveau de la production? Est-ce que l'offre des produits alimentaires est au-delà de la demande? Je ne pense pas. C'est une question qui reste à vérifier.
Par exemple, l'huile de palme, les volailles, par exemple. Les entrepreneurs, parfois, trouvent des difficultés à les écouler sur le marché.
Vraiment, je parle sous réserve que ça reste une question à vérifier. J'aimerais dire parce que je n'ai pas de données, mais si cela serait le cas, il y a toujours des solutions alternatives. Donc, de faire une transformation locale avec l'huile de palme, on peut faire du savon. Donc, si c'est vrai qu'il y a une production intense d'huile de palme, et donc, pour moi, c'est une opportunité pour en faire du savon. Et je sais que c'est une zone aussi où la production du savon n'est pas locale. Ou soit elle est locale, elle n'est pas vraiment à un niveau très avancé. Donc, ce que moi, je recommanderais, c'est que pour des produits où il y a une surproduction, il y a des alternatives, des transformations locales. Et moi, j'inviterais cet entrepreneur-là à se faire former. Bon, que ce soit pour la volaille. Donc, même si la volaille, si la production est intense, il y a toujours des alternatives pour transformer, peut-être faire de la volaille boucanée, et que ça permet de conserver pendant un temps, les temps de trouver le marché. Mais je dirais aussi que ce n'est pas que c'est totalement enclavé. Lorsque je vois aujourd'hui, par exemple, Mbujimayi Kananga, par rapport à d'autres zones de la RDC, ce n'est pas aussi si grave. il y a toujours quand même une accessibilité par des moyens rudimentaires, notamment les vélos, motos et consorts. Actuellement, c'est plusieurs zones en RDC où on ne se déplace peut-être qu'en moto ou qu'en vélo. Mais ce n'est pas pour autant que les gens se plaignent. Et tant que ces alternatives-là existent, il faut recourir à cela. Et donc, pour moi, s'il y a une surproduction et qu'il y a une petite accessibilité à un marché, il faut recourir à ces moyens-là. Mais la plus grande action qui doit être posée par ces entrepreneurs, comme j'ai dit, c'est de s'organiser vraiment à corporation et de faire écouter leur voix pour que lorsqu'il y a surproduction, que l'autorité sache qu'il y a des produits qui sont en train de pourrir et que les actions soient faites pour que les routes d'écoulement soient ouvertes pour que ces entrepreneurs n'arrivent pas à faire des pertes. Pour moi, je pense que à toutes ces situations, il y a des solutions, mais l'essentiel, c'est de ne pas se plaindre et de chercher une solution lorsqu'on est face à un problème donné. Et pour moi, je sais que ces problèmes d'accessibilité, ça touche aussi d'autres zones, mais où les voies alternatives ont été développées.
Mais Joël Tembo, ils ont aussi soulevé les cas de la multiplicité des taxes de l'État. Est-ce que c'est une question qui est générale? Il y a notamment le manque de formation de jeunes qui sont dans cette région, ne sont pas formés et ils sont confrontés à une multiplicité de taxes. Et ça décourage les initiatives de ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Est-ce que la question de taxes, elle est générale et la question de la formation? Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont-ils formés?
Oui, le défi, c'est que notre législation, elle est encore en retard par rapport à la promotion et au développement des micro et petites entreprises. Parce qu'en fait, lorsque vous vous retrouvez comme entrepreneur dans une zone où il n'y a pas assez d'assiette fiscale, donc vous devenez la cible principale. Donc l'administration locale va devoir s'appuyer sur vous pour mobiliser des impôts et des taxes pour trouver des moyens de fonctionnement. C'est ça malheureusement le défi. Mais nous saluons le fait qu'aujourd'hui nous avons la loi sur les startups et le développement de l'entrepreneuriat qui a été promulguée, mais les mesures d'exécution prennent encore. Donc dans ce domaine-là, je dois vraiment confirmer qu'il y a encore beaucoup à faire, surtout lorsqu'on se retrouve dans un milieu où il n'y a pas assez d'entreprises sur lesquelles s'appuyer pour mobiliser les taxes. Et là, toujours, ce que je recommande aux entreprises, comme vous avez dit, c'est la formation. La question est là, est-ce qu'ils sont formés? Le défi, c'est que plusieurs entrepreneurs, lorsqu'ils commencent, ils ne prennent pas le temps de se renseigner sur les obligations fiscales auxquelles ils seront confrontés. Et ce que nous donnons comme conseil, c'est qu'avant de commencer une activité donnée, c'est de prendre le temps de se renseigner, de se documenter par rapport à ce que prévoit la loi quand aux obligations fiscales. Et cela va vous permettre d'être conséquent, d'intégrer cela dans votre business plan. Ça arrive même qu'on se lance dans un domaine où, lorsqu'on n'a pas planifié, où on n'a pas tenu compte des obligations fiscales, que lorsque l'État vient réclamer les impôts et les taxes, vous vous retrouvez que vous êtes en train de vendre à perte parce que vous n'avez pas tenu compte de ça. Donc c'est important pour l'entrepreneur d'être informé. Et nous recommandons aussi aux entrepreneurs, lorsqu'ils sont dans un milieu donné, de toujours s'organiser en corporation et de savoir aussi plaider lorsque la pression fiscale devient un élément qui étouffe le développement même de l'entreprise. Parce qu'en fait, l'État a intérêt d'encadrer les entrepreneurs. L'État a intérêt d'accompagner les entrepreneurs pour les amener à la croissance, parce que lorsqu'il y a la croissance, les entreprises, cela constitue une base importante pour l'assiette fiscale. Donc, au finish, c'est le gouvernement, l'État encore qui va bénéficier davantage. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs programmes développés par les gouvernements pour accompagner l'entrepreneuriat. C'est dans cette perspective-là que nous avons aussi des agences qui sont dédiées à ça. Et là, je vais parler de l'ANADEC. Et là, je vais parler aussi du FOGEC. Et sans aussi ne pas parler de cet ambitieux programme, le programme Transform qui était jadis PADEMPME, et qui sera aussi déployé dans la zone du Kassai, précisément à Mbujumai et à Kananga. Et dont les entrepreneurs qui sont là et qui seront dans les conditions qui seront publiées peuvent vraiment se frotter les mains parce que ça sera un soulagement au moment de déploiement de ces programmes. Donc, pour dire bref, l'État ne devrait pas être considéré comme une menace pour un entrepreneur, mais l'État devrait encadrer. Et ça revient aussi aux entrepreneurs de s'organiser avec groupement, à syndicat, pour rappeler cela à l'État. Et il y a aussi des fois des situations où ceux qui sont sur terrain ignorent encore les nouvelles lois par rapport à l'accompagnement des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, je peux dire que l'État congolais, d'ailleurs même le quinquennat actuel du chef de l'État, il est inscrit parmi les priorités principales, c'est l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat est parmi les priorités principales, les axes stratégiques donc du développement et la RDC.
Joël Tembo, je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci beaucoup Gisèle et salut encore à tous les auditeurs qui nous suivent.
Vous venez d'écouter Joël Tembo Vuira, fondateur de Kivu, entrepreneur basé à Goma, dans la province du Nord Kivu, qui s'entretenait avec Gisèle Cage. Et c'est par ici que prend fin votre émission Bana Okapi. L'entrepreneuriat de jeunes dans le Kasaï face aux nombreux défis était au centre de cette émission réalisée par Gisèle Cage sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, mise en onde par Dédoné Nyangaza wa Nyangaza avec une présentation de Sarah Sumbela. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site www.radiokapi.net et sur la page Facebook de Bana Okapi. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver très prochainement.